7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. 7 milliards de voisins, drogue, alcool chez les jeunes. Que peut faire l'école pour lutter contre les addictions? On en parle avec vous, Jean-Pierre Coutron, psychologue clinicien, président de la Fédération Addiction. Vous nous le disiez en première partie d'émission. Pendant longtemps, c'est vrai qu'il était difficile pour des spécialistes comme vous d'entrer dans le milieu scolaire. Les chefs d'établissement, les rectorats n'y étaient pas forcément favorables. Ça revenait peut-être à introduire un peu le loup dans la bergerie. Oh, si on en parle, alors les jeunes vont commencer à consommer. C'était pas tout à fait la réalité, mais bon, il n'y avait pas besoin qu'on en parle pour avoir l'idée de consommer des substances mauvaises pour leur santé et pour leur apprentissage. On en a parlé. Dès qu'on est à un joint par jour, forcément, ça a de graves répercussions, de mauvaises répercussions scolaires. Vous nous le disiez, Karine Collin-Descens, vous êtes proviseure adjointe d'un lycée professionnel en région parisienne à Évry. Et bien sûr, les voisins, les voisines, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Je vous lis le témoignage de Kay Yang, qui est étudiant en Jamaïque. Il nous dit qu'au Tchad, les élèves fumeurs sont nombreux, mais personne n'en parle. Les élèves fument même en présence des enseignants. Adama Bobo-Dioulasso, Burkina, la prévention, la sensibilisation contre les addictions aux substances illicites doit d'abord avoir lieu au niveau des écoles. Ça, c'est vrai que là, maintenant, on commence bien à comprendre l'importance du milieu scolaire pour parler de cela. Abou, 38 ans, est en Mauritanie. Il nous dit qu'il faut renforcer les interdictions de drogue et d'alcool à l'école. On accueille un auditeur, Alphonse, qui est en ligne avec nous, qui est au Sénégal, à Thiès. Bonjour, Alphonse.
Bonjour.
Alors, je ne sais pas comment vous réagissez justement par rapport au témoignage que je viens de lire de cet auditeur en Mauritanie qui dit qu'il faut interdire absolument la drogue, l'alcool à l'école. Donc, en gros, pour lui, c'est la clé de la prévention.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui quand il dit que l'école, c'est la clé de toutes les préventions. Vu l'importance de l'école, je trouve que peut-être il peut avoir raison sur un point. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est quand il dit qu'il faut renforcer les interdictions.
Ouais.
Bon, je tiens d'abord à faire une précision.
Sous-entendu la sanction, finalement. Hein.
Voilà, pour le professeur que je suis, bon, je trouve que c'est un peu déplacé de se tenir l'idée qu'il faut laisser les jeunes consommer de l'alcool. Par contre, si je m'en fie à mon expérience personnelle que j'ai vécue concrètement avec des jeunes, alors je me rends compte qu'il y a beaucoup d'entre eux qui consomment de l'alcool parce que tout simplement il y a une certaine curiosité qu'ils cherchent à satisfaire. Et cette curiosité est généralement née des discours, n'est-ce pas, développés sur le thème de l'alcool. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde ouvert, c'est un monde globalisé qui permet à l'enfant, même tout seul, de trouver tout ce qu'il veut avoir. Donc, à la place de ces nombreuses interdictions qui pourraient encore attirer plus de jeunes, moi, je propose une pédagogie que j'appelle de l'exemple, qui se présente sous forme de règles de vie, qui est une pédagogie participative, inclusive. Là, l'enfant se rend plus responsable et il est suffisamment renseigné sur les différents types de drogues.
D'accord. Pour assouvir sa curiosité, finalement, fournir de l'information sur ces produits. Jean-Pierre Coutron, est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui, moi, je trouve assez intéressant. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui sont des... La première, bien sûr, il y a un principe, il faut rappeler que c'est interdit, voilà, mais on sait que ça suffira pas. Hein. La deuxième chose qui était dite, c'est qu'il faut s'intéresser un peu à ce qui fait que ces jeunes vont vers ces substances. Et dans le fait qu'ils vont vers ces substances, on va toujours trouver, là encore, plusieurs champs d'action. Le premier, c'est ils vont y chercher quelque chose, et ils vont y chercher le témoignage, le donner, la convivialité, ils vont y chercher l'autre en parler, des sensations, ils vont y chercher, une autre le disait, de l'évitement. Donc, c'est en regardant ce qu'ils vont chercher, et du coup, en répondant en partie à ça. C'est-à-dire que le fait de se préoccuper d'autres sources de satisfaction qui pourraient être apportées à ces jeunes... Le fait de leur donner objectivement un certain nombre d'informations sur le piège que ça peut être, le fait de temps en temps de poser des sanctions quand on a besoin. Donc c'est faire converger ces actions qui seront utiles. Et bien sûr, là-dessus, l'éducation a quelque chose à faire, la pédagogie a quelque chose à faire, la possibilité de respecter l'échec d'un adolescent et de pas tout de suite lui tomber dessus, mais de l'aider à se remotiver.
C'est
le mélange de ça.
Les jeunes disaient en première partie d'émission, les témoignages qu'on a entendus, on recherche aussi une forme d'insouciance, un retour à l'enfance, on a entendu. Sous-entendu, au lycée, c'est pas marrant tous les jours, la pression scolaire qu'on a.
Je
m'adresse
que...
à vous, chef d'établissement, Karine Connaissance.
Oui, je pense qu'effectivement, on va pas s'adresser de la même manière à un élève qui consomme du cannabis pour explorer des limites ou pour sous l'influence de ses pairs, ou ce qu'on peut voir parfois, une consommation comme automédication contre des souffrances psychiques. Et donc, d'où l'importance, c'est ce que vous disiez, de comprendre dans quel cadre on se situe et faire œuvre de pédagogie, et c'est ce que nous faisons le plus possible pour aider ces élèves à avoir ces enfants à avoir des comportements responsables et à reprendre main sur leur consommation.
Cher Diop, vous êtes toujours en ligne avec nous à Dakar?
Oui.
Vous êtes directeur du centre Jacques Chirac, qui s'occupe de la prévention, de la prise en charge des usagers de drogue, et vous intervenez beaucoup en tant qu'éducateur en milieu scolaire. Par rapport à ce que nous disait notre auditeur, là, c'est pas seulement la sanction, l'interdiction, il faut du dialogue, il faut une forme d'éducation plus moderne finalement. Comment vous vous situez, comment vous intervenez dans les établissements avec les profs?
Oui, moi je suis tout à fait en phase avec lui, parce que en fait... dans le domaine de la consommation, de façon générale, la répression, les mesures de sanctions, sont peu efficaces. Nous pensons que l'approche qu'il faut privilégier, en tout cas pour réduire la consommation, c'est vraiment l'approche éducative, l'approche préventive. C'est ça notre domaine. Au niveau de l'école, ce que nous faisons, c'est souvent d'y aller, de faire des actions de sensibilisation, parce que très souvent nous sommes sollicités pour venir parler aux élèves au niveau des établissements, parce qu'on aurait découvert dans les écoles effectivement des cas avérés de consommation. Et ce que nous faisons également, c'est qu'au niveau de notre centre, nous avons toute une documentation qui renseigne beaucoup sur les drogues. Nous mettons à l'aise les élèves qui viennent là-bas pour qu'ils aient plus d'informations.
Que vous disent les jeunes? Alors, quand vous mettez en place toutes ces actions, que vous disent les jeunes? Comment vous savez si vous avez été efficace, si vous avez touché juste?
Oui, je pense que ce qui les pousse le plus souvent. Ce qui les pousse le plus souvent vers la consommation... C'est vraiment des phénomènes liés à l'anxiété, c'est des phénomènes liés aussi aux soucis de découverte, parce que, comme l'a dit Alphonse tout à l'heure, il y a une certaine curiosité quand même qui pousse les élèves vers ça. Essentiellement, c'est ça. Mais à ce niveau, ce qu'il faut, c'est véritablement de donner la bonne information et de prendre en charge, parce qu'il nous arrive de prendre en charge directement des élèves quand même qui sont confrontés à des problèmes.
Alors, très concrètement, je voudrais qu'on regarde le cas de votre établissement, de votre lycée professionnel, Karine Collin-Descence, en région parisienne. Vous, très concrètement, quand vous repérez des jeunes qui sont alcoolisés, soit boivent régulièrement ou fument régulièrement du cannabis, qui vous signale ça et que faites-vous?
En général, le premier signalement vient des professeurs, comme je vous dis, souvent pour des problèmes de sécurité dans les ateliers, mais aussi beaucoup les assistants d'éducation, les conseillers principaux d'éducation, qui sont quand même en contact quotidien avec les élèves. Donc quand on a des cas particuliers comme ça, en général, l'élève est envoyé chez l'infirmier, ou voir le médecin scolaire ou l'infirmier, qui sont des personnes qui vont avoir des entretiens, et réorienter en général l'élève vers des spécialistes, mais surtout beaucoup dialoguer.
Voir ça commence avec l'infirmière scolaire, par exemple.
Avec l'infirmier, chez nous c'est un infirmier, ça, en général, la première vraie consommation. Il faut voir aussi qu'on est quand même dans de l'ordre du privé.
Vous posez la bonne question. Est-ce que finalement la prévention et l'aide aux jeunes qui sont déjà bien installés dans le cannabis, par exemple. Est-ce que ça doit être de la discussion de groupe ou, à un moment donné, il faut passer absolument à du dialogue en seul avec un adulte, Jean-Pierre Coutreau?
Je crois que là aussi, hein, y a pas l'un ou l'autre, il y a l'un et l'autre. Il y a des situations qui se traitent bien en groupe et le partage de l'information, la discussion sur les effets généraux que ça fait. Les jeunes filles ont fait un petit groupe à elles toutes seules dans votre début de témoignage. Et ça, c'est bien. Entre eux, la culture des pères est une culture importante à travailler, il faut que les adultes y prennent leur place. Et puis, quand on est sur l'usage d'une personne et qu'on veut faire réfléchir une personne à son usage, là, des temps qui respectent un peu son intimité, qui lui permettent à lui de dire à un interlocuteur de confiance où il en est, et on évoquait, et ça rejoint votre témoignage, on évoquait le fait qu'il a fallu que les professionnels apprennent aussi à abaisser le seuil de rencontre. Il faut pouvoir aller vers ces jeunes sans forcément leur dire « tu es malade, tu es toxico, tu es drogué ». Il faut pouvoir leur dire, t'as 15-16 ans, t'es en train de faire des usages de produits, tu es persuadé que tu arrêteras, que tu contrôles, c'est pas aussi sûr que ça, et est-ce que tu veux qu'on y réfléchisse ensemble? Le point de rencontre, c'est de
donc,
lui dire...
Donc on est dans une dédramatisation, finalement,
On est dans une dédramatisation, mais on n'est pas dans une banalisation. Je prends en compte une situation, mais je ne la qualifie pas comme ce qu'elle sera peut-être dans quelques temps, je la qualifie comme tu la ressens toi, aujourd'hui. Ouais. Et ça facilite beaucoup
donc,
la rencontre.
Donc dédramatiser, mais ne pas banaliser, ça c'est vraiment à retenir.
Et ne pas juger, je crois que les jeunes sont aussi sensibles à ça, ne pas porter de jugement.
C'est ce qu'ils ont dit dans les témoignages qui étaient très justes. Ils essayent de nous faire peur et comme ils essaient de nous faire peur, on ne les écoute pas.
Tout à fait.
Les jeunes filles le disaient de façon très claire.
Les faire parler entre eux aussi est très utile, comme les faire échanger sur la difficulté. Est-ce que c'est difficile d'arrêter? Est-ce que c'est difficile de baisser sa consommation? Les faire discuter entre eux.
Généralement, quand on fait ça au début, ils en rajoutent dans la provocation et puis si on tient le premier quart d'heure ou les premières minutes, petit à petit, les contre-exemples arrivent. C'est eux-mêmes qui nuancent et comme c'est eux qui ont nuancé, en termes de pédagogie et d'appropriation, c'est 10 fois plus utile.
Cher Diop, à Dakar, vous souhaitez conclure là et réagir par rapport à ce que vous venez d'entendre?
Oui, moi je suis tout à fait d'accord, parce qu'en matière de sensibilisation, il faut juste trouver le juste équilibre. Je suis tout à fait d'accord qu'il ne faut pas dramatiser, qu'il ne faut pas banaliser, il faut toujours juste trouver les mots justes. Parce qu'en fait, ce qu'on cherche, c'est effectivement de donner les bonnes informations pour que l'individu puisse effectivement les prendre en compte et éventuellement changer son comportement. Alors, je pense que ça, c'est important. Je voulais juste conclure par dire aussi que nous, en tout cas au niveau du Sénégal, dans le milieu de l'éducation, on est en train de travailler avec le ministère de l'Éducation parce que nous voulons faire avec le comité interministériel de lutte contre la drogue qui pilote un peu la lutte contre la drogue au niveau du Sénégal et d'amener le ministère à intégrer dans le curriculum de formation des élèves à partir du moyen secondaire des modules d'enseignement sur les drogues, comme on enseigne la santé de la reproduction, qu'on enseigne au même titre.
Mais alors, dans le cadre de quelle matière, dans ces cas-là, les SVT?
Oui, bon, peut-être que c'est les spécialistes qui vont déterminer cela, mais je pense que oui, dans les SVT, ça peut bien effectivement être inclus à ce niveau-là. Je pense très bien, mais nous, ce qui nous importe, c'est véritablement qu'à partir du moyen secondaire, qu'au moins les élèves puissent avoir un minimum d'informations sur les drogues, sur les effets, sur éventuellement les conséquences.
Ouais.
Parce que ça aussi, c'est important. Étant entendu que beaucoup d'élèves, beaucoup de jeunes sont dedans, parce qu'au départ, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas tout ce qu'il y a comme conséquences et comme effets par rapport à ça.
Vous soulevez effectivement une vraie question sur la place de ces sujets-là dans les programmes scolaires. Merci beaucoup, cher Diop, en tout cas, d'avoir été en ligne avec nous, directeur du centre Jacques Chirac à Dakar. La place de ces questions-là dans les programmes scolaires aujourd'hui, Jean-Pierre Coutreau?
Alors, là aussi, ça bouge. Hein. Je veux pas faire la publicité pour le ministère de l'Éducation nationale. Ils ont des responsables qui sont là pour ça. Mais il y a une circulaire qui vient d'être prise ces dernières années qui demande que dans les situation de rentrée, les addictions soient prises en compte. Et là encore, on commence à voir qu'il faut une partie information, mais que ça ne fera pas tout, et qu'il faut une partie aussi où on développe ces outils de rencontre. Donc aujourd'hui, je trouve que on rattrape un retard, on a mis du temps à s'y mettre, on a pensé longtemps qu'il fallait marteler l'interdit, on a pensé longtemps qu'il fallait d'abord ne pas voir le problème, ensuite qu'il fallait marteler l'interdit. Aujourd'hui, à force d'avoir un peu pris du retard, on comprend qu'il faut associer les trois choses, l'information, le rappel de la loi, et puis des possibilités d'écoute et de discussion et d'information. Juste, je voudrais dire que les jeunes filles nous l'ont bien dit, les informations qu'elles veulent entendre en première, c'est celles qui les concernent elles. C'est pas celles qui les concernera si jamais elles continuent, puisque dans leur tête, elles disent « mais on continuera pas ». Donc c'est les informations ici et maintenant.
Je crois qu'aussi ce problème des addictions rejoint au niveau de l'éducation nationale le développement de compétences plus larges qui sont adopter des comportements responsables, faire des choix, gérer son stress, avoir un esprit critique. C'est vrai que consommer du cannabis, c'est souvent subir aussi le groupe. Et donc, Et donc, c'est tout ça qu'on apprend.
Vous avez entendu tout de même ces jeunes filles en début d'émission qui disaient aussi qu'ils étaient particulièrement, on va dire, qui témoignait d'un certain humour, d'ailleurs, qui se moquait clairement des interventions de prévention dans leur établissement scolaire. Alors, oui, on nous raconte qu'on va prendre l'autoroute en sens inverse, etc. Donc, ça montre bien aussi que, parfois, le dialogue est décalé par rapport à ce qu'elles attendent.
Je vous dis, on l'a mesuré, on sait qu'aujourd'hui, cette information, on essaie de leur faire peur en cherchant le cas extrême, finalement, nous disqualifie à leur regard et disent, ils n'ont rien à nous dire qui nous concerne, nous. Voilà. Et que l'information, au contraire, sur laquelle elles vont être sensibles, et on le revoit aussi bien en groupe qu'individuellement, c'est celle qui leur parle de ce qu'elles vivent là, dans la période où elles sont, et qui leur permet de voir que cette façon de gérer le stress, finalement, les rend moins performantes par rapport à gérer le stress parce qu'elles ne savent plus le gérer toutes seules. Cette façon de gérer la fête les rend moins performantes par rapport à la fête parce qu'elles ne savent plus se détendre sans substance, cette façon, et ainsi de suite. Et ça, quand vous commencez à dire à une adolescente, je te demande pas d'arrêter, c'est pas, mais je te demande de réfléchir à ça. Vous les voyez revenir vers vous.
Comment on pourrait réfléchir à faire la fête sans rien, c'est ça.
Mais de dire comment tu peux arrêter de perdre tes capacités pour les confier à un produit. Et quand vous leur dites comme ça, petit à petit, elles reviennent vous voir les personnes après en disant, ce truc-là, ça m'intéresse. Voilà. Ouais. Hein? Et d'autant plus que vous leur avez pas donné un ultimatum ou que vous les avez pas tout de suite dit, mon pauvre ami, tu es une droguée, t'es quelqu'un de perdu, ainsi de suite. Parce que si vous commencez à mettre quelqu'un tête sous l'eau pour lui dire redresse-toi.
Je retiens ça, le message pour les adolescents. Comment tu pourrais arrêter de perdre tes capacités en les confiant à un produit?
Exactement.
Voilà la question qui tue. Le week-end pour y réfléchir. 33 1 84 22 71 71. Appelez-nous, on en discute avec nos invités.
7 milliards de voisins, nous avons maintenant une LUCAM. Voisins, voisines, on est ensemble. Et puis on va se parler, on va se dire la vérité.
Drogue, alcool chez les jeunes, que peut faire l'école pour aider les jeunes qui consomment ces substances ou pour prévenir la consommation de ces substances? Et puis on parle bien sûr des effets sur la scolarité. On a bien expliqué en première partie qu'il y avait un effet direct sur la scolarité, en tout cas quand on consomme du cannabis tous les jours. Nous sommes en ligne avec Yannick Ryan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes principal dans un collège à Plaisir, dans les Yvelines, dans la région parisienne. A priori, on se dit que les élèves de collège, a fortiori les tout jeunes qui sortent de l'école primaire, probablement sont au courant de ces pratiques, mais ne sont pas encore concernés.
Non, sont pas forcément concernés, effectivement, puisque les élèves de collège, on arrive au collège en 11 ans en général, quittent le collège vers 16 ans, mais connaissent effectivement ces produits, hein, connaissent le cannabis, connaissent les drogues, on entend parler par leurs aînés. Hein, et puis sont aussi sensibilisés, connaissent aussi l'alcool, puisque je pense qu'il ne faut pas dissocier les drogues, le cannabis et l'alcool. Voilà. Donc,
qu'est-ce que vous observez dans votre collège, vous, à votre niveau?
Alors, dans l'établissement où je suis là maintenant, on en parle effectivement. Nous, moi, j'observe pas vraiment de consommation, très très peu dans cet établissement où je suis. Peut-être plus parfois dans d'autres établissements. J'en ai rencontré plus dans l'établissement où j'étais auparavant. Hein.
Pourquoi? Est-ce que vous savez d'un établissement à l'autre pourquoi on a une consommation différente?
On peut avoir une consommation différente quand on a peut-être accès à des moyens financiers différents. Hein, voilà, quand nos élèves ont peut-être un argent de poche plus facile, c'est peut-être aussi plus facile pour eux de s'en procurer.
Ça se vérifie dans les statistiques, Jean-Pierre Coutron.
Tout
ça,
à fait.
Plus on monte dans l'échelle sociale, plus les jeunes sont favorisés économiquement, plus ils consomment ou pas?
On a des études qui sont tout à fait significatives de ça. Par exemple, en région parisienne, pour le faire très simple, on consomme plus sur l'Ouest que sur l'Est.
Ouais.
Et on sait que
les banlieues
l'argent
plus
est plutôt sur l'Ouest de la région parisienne que sur l'Est de la région parisienne. Mmh. Voilà. C'est une réponse un peu brute, mais et on le vérifie en l'affinant. Et de même que ce que dit votre interlocuteur est tout à fait juste, c'est à la fin des années collège et au début des années lycée que le fameux enchaînement tabac, cannabis, alcool commence à se faire. Et bien sûr,
et ça, vous le voyez à l'œil nu, ce début d'enchaînement, justement, Yannick Ryan ?
Disons qu'on le pressent, oui, on le pressent. On en entend parler, on sait que on entend parfois des bruits du couloir, nos assistants d'éducation, ce qu'on appelait autrefois les surveillants, hein, parfois par d'autres termes, que j'essaie d'éviter, puisque nos assistants d'éducation sont chargés justement d'éduquer, de prévenir, de faire de la prévention, c'est ce qu'on essaie de faire.
Alors, je reviens à votre question, qui ont fait bien mieux que nous depuis longtemps. Hélas, on pourrait dire que tous les autres pays ont fait bien mieux que nous depuis longtemps. Alors, il y en a qui ont particulièrement réussi, hein, mais nous sommes le plus mauvais pays européen et un des plus mauvais pays au monde. Nous avons le plus haut taux de consommation de cannabis, nous avons une consommation de tabac chez les jeunes qui a plutôt reparti, et nous avons une consommation d'alcool chez les jeunes sous forme de binge drinking qui a augmenté.
Est-ce
encore
qu'on
une fois.
On peut dire en quelques mots, je sais que c'est extrêmement difficile, c'est un faisceau de facteurs, mais on peut dire en quelques mots pourquoi.
Pour le coup, l'analyse que nous portons, je ne peux assumer que mon point de vue, c'est qu'on s'est enfermé pendant trop longtemps sur soit c'est un malade, soit c'est un délinquant, et que nous avons mis trop de temps à mettre en route cette voie intermédiaire qui est l'accompagnement éducatif avec un peu d'éducation, un peu de sanctions et un peu d'écoute et d'aide,
y compris thérapeutique. On revient à la fameuse phrase, pourquoi tu confies tes capacités à un produit, et si on en parlait ensemble.
Que si on ne donne pas un interdit à un adolescent, il ne va pas faire le pas, mais si on ne fait que l'interdit, il va dire et je fais quoi maintenant. Donc il faut associer un peu un certain nombre de choses, aller piocher dans les trois parallèles.
On accueille un dernier auditeur au 33 84 22 71 71, Droumaté qui est à Dakar. Bonjour Droumaté.
Bonjour.
Vous avez 25 ans, vous avez complètement décroché de la consommation de cannabis ?
Oui, je commence. Bonjour à tous les écouteurs de la radio RFI. Je me nomme Drou, je suis à Dakar.
Ouais, il nous reste très peu de temps, Drou, mais dites-nous comment vous êtes sorti de ça.
Au fait, je suis sorti avec une fille qui est plus âgée que moi. J'ai un ami, je sens tout avec lui. Je l'ai raconté que j'ai commencé à prendre la drogue et je prends l'alcool.
Ouais.
Et je me suis confié à lui. À un moment donné, j'ai voulu qu'il fasse la même chose que moi. Et il m'a dit qu'il peut pas le faire et notre amitié s'arrête là. Ah. J'ai vu que je tiens beaucoup à lui, je peux pas l'abandonner. Ouais. Et j'ai échangé avec lui, j'ai dit à la fille, il faut qu'on arrête. Elle m'a menacé, elle me dit qu'elle est prête à me faire du chantage si je ne la suis pas sur le chemin.
Ouais, ouais. Mais finalement, vous aviez perdu un ami dans cette consommation. Le rôle des pères, c'est peut-être une bonne conclusion aussi. Je ne sais pas si dans votre établissement scolaire, Karine Collin d'Essence, c'est quelque chose qui a du sens aussi de faire dialoguer des jeunes qui ne consomment pas, parce que Dieu merci, une grande majorité de jeunes ne consomment pas régulièrement de la drogue ou de l'alcool.
On aimerait effectivement que ces jeunes-là aussi, mais je pense que c'est la parole est parfois difficile entre les jeunes et il peut y avoir un peu d'incompréhension entre ceux qui consomment.
C'est pas simple d'exposer ceux qui consomment pas à être un exemple. À l'inverse, ce qui est extrêmement important, c'est de casser la phrase qui dit je le fais, tout le monde le fait. C'est-à-dire non, beaucoup le font.
C'est pas ce que disent les chiffres.
Quand même, tu te mets dans le sous-groupe de ceux, les motards rencontrent des motards, les amateurs de foot rencontrent des amateurs.
On va le redire, ceux qui consomment du cannabis tous les jours, on est encore dans une minorité.
Ils se débrouillent pour être entre eux et du coup se conforter là-dedans. Et parfois, une première aide de leur apporter, c'est de leur faire revoir des personnes qui consomment.
Merci à tous les deux. En tout cas, Jean-Pierre Coutron, psychologue clinicien présent de la Fédération Addiction, et Karine Collin d'Essence, proviseure adjointe de lycée en région parisienne. Merci à vous tous pour vos témoignages et à l'équipe Éléonore Krenik, Camille Néran, Romain Dubrac. Lundi, 7 milliards de voisins, les conflits fonciers en Afrique. À lundi.